Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Il est 9h40 et c'est Pâques sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le breakdance sera sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Oui, 2024, 40 ans pile après la météorite cathodique qui fracassa toute une génération de téléspectateurs. L'émission durait 13 minutes à l'époque. Elle était diffusée juste après Starsky et Hutch. Elle s'appelait H.I.P. H.O.P. animée par Sidney. On y graffait, on y smurfait, on y breakait, on y scratchait. TF1 avait donc ouvert son antenne à la culture hip-hop. Et vous savez quoi? Ça n'existait nulle part ailleurs dans le monde. Les Américains nous enviaient de Madonna à Herbie Hancock. Ils sont tous venus sur ce plateau resté mythique dans l'histoire de la télévision française.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et l'indicatif aussi, il est resté mythique. Bonjour Sidney.
Bonjour.
La vraie histoire de H.I.P. H.O.P. 10 épisodes, c'est une petite série. Chaque épisode est très court, font moins d'une dizaine de minutes. Et c'est pour vous tous, c'est diffusé sur Arte TV, le site d'Arte. Pourquoi? C'est très très malin, et vous allez comprendre pourquoi c'est très malin de raconter cette histoire aujourd'hui. Pourquoi l'émission commençait par les frères et les sœurs? Pourquoi les frères et les sœurs et les frères de hip-hop? Parce que c'est resté un marqueur, moi j'étais gamine. Pourquoi?
Bah parce que tout le monde, voilà, parce que tu es ma sœur et que je suis ton frère. Non, ça a démarré dans mes débuts en tant que DJ,
ouais.
On faisait des soirées un peu partout,
ouais.
Et ce qu'on faisait c'est que j'avais un titre, je mettais toutes sortes de musique black, il y avait une chanson haïtienne que je mettais, et à chaque fois que je la mettais, il y avait une prière, il y avait Notre Père dans cette chanson, au milieu de la chanson, et... comment on faisait cette soirée dans une espèce de chapelle à Porte de la Chapelle par là, ouais. Et à chaque fois j'étais là-haut et puis je disais bon attention les frères et sœurs, c'est l'heure de la prière. C'est resté depuis, donc ça date depuis 1900, je sais plus, voilà.
Oh, allez, la fin des années 70.
Ah oui,
allez,
ah oui,
c'est
ah
ça,
oui,
la fin des années 70.
74, 75,
c'est ça.
Pas précis.
I am Mathieu Kassovitz qui réalise La Haine, Oxmo Puccino, Soprano, DJ Dynasty, Black M, tous ils racontent dans cette série le choc que ça a été à l'époque. Et on va écouter Soprano et Oxmo Puccino, qui sont deux rappeurs aujourd'hui, qui sont noirs tous les deux.
Déjà, ça fait sentir des jeunes des quartiers qui se sentent un peu exclus, qui sont français. Attention, c'est important de dire ça.
Mais moi, je le réalisais pas à l'époque. Je réalisais pas à l'époque que c'était une certaine partie de la France qu'on voyait, parce que je n'avais pas remarqué avant ça qu'on ne voyait pas de pauvres à la télé. Parce que c'est ça le truc du hip-hop. C'est que c'est l'émergence et la créativité des pauvres.
On se voit à TF1, le journal télévisé, la télé, la chaîne, la première chaîne française. Déjà, on se sent représenté.
Soprano, hein, qui,
oui.
Est, qui était tout jeune, qui était, oui, tout minot à l'époque où il regardait ça à la télé et qui remplit des stades aujourd'hui. Il faut se rappeler, début des années 80, c'est pile à l'époque où le Front National monte, emmené par Jean-Marie Le Pen, qui réalise un score historique aux élections européennes. Et surtout, il faut raconter quelque chose, Sidney, de la télévision française de cette époque-là. Il n'y avait pas de jeux télé, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de télé-réalité. Donc les vrais gens, comme on pourrait dire, ils n'étaient pas à l'écran. Ils n'étaient pas à l'écran. Ouais. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Des Noirs, des Asiates, des Arabes? On ne les voyait pas, en fait.
Non, on ne les voyait pas. Ils n'étaient pas... Non, on les avait laissés dans les banlieues, ces gens-là.
Ouais.
On les avait mis, bon, ils sont stockés. Donc, c'était des gens, bon, ils vont travailler, et puis ils font des gosses, ils vont à l'école, et puis point barre.
Ouais.
On n'est pas en train de parler. Pourtant, ces gens-là, ils dansent comme tout le monde. Ils ont besoin de faire la fête. Ils
et
ont
vous,
aussi
vous
leur
dites,
culture.
Et vous, vous dites, on cherchait même dans le public des petits blancs parce qu'on voulait pas faire une émission ghetto.
Bah, forcément. Parce,
ouais,
qu'on s'est dit, ça y est, on va être catalogué. Ah oui, c'est encore un truc. Bon, bah, c'est normal. Les noirs, ils dansent bien. C'est normal. Mmh. Non, j'ai cherché des blancs qui dansent bien pour pouvoir justement justifier que tout le monde,
ouais,
peut le faire.
Tout le monde peut
d'ailleurs
danser.
J'ai dit, c'est mon slogan. Tu peux le faire.
Et c'est émouvant ce qu'il dit Oxmo Puccino quand il dit, finalement, on voyait des pauvres pour la première fois à la,
oui,
télévision. Et ça, dans votre façon d'animer l'émission, ça revient tout le temps, Sidney. C'est-à-dire, vous dites tout le temps, on fait avec les moyens du bord. D'ailleurs, nous, on n'a pas un rond pour faire cette émission. Parce que c'est vrai, c'est ça l'histoire. Vous n'aviez,
oui,
pas, vous aviez pas un centime de budget.
Pas de budget.
Mais vous dites tout le temps ça aux jeunes, ouais, qui vous entourent. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter un Walkman, voilà comment vous pouvez,
exactement,
faire.
exactement. Ouais. Mais c'est toute la base de la culture hip-hop. Ouais. Et c'est toute sa force. Parce qu'effectivement, pour faire de la radio, pour faire de la musique, il fallait avoir les moyens de pouvoir justifier d'acheter du matériel, des choses pour faire. Non, le hip-hop avec rien. On peut faire la batterie avec la bouche, beatbox, boum, boum. On peut faire rapper, il suffit d'écrire un texte sur un bout de papier, de dire, voilà, de justifier qu'on existe. Et ça, c'est important. La culture hip-hop, avec rien, on fait. C'est la force du hip-hop encore aujourd'hui.
Vous allez devenir et rester le premier animateur noir de la télévision française.
Oui, ça, je savais pas à l'époque. Je me posais pas cette question.
Non, vous vous posez pas la question parce qu'en réalité, vous êtes un homme de radio. Et donc, finalement, la couleur de votre peau la question ne s'est absolument pas posée.
Pas du tout.
C'est-à-dire que DJ Sinead, il a explosé en radio. Ouais. C'est une histoire de radio qu'on vous raconte. Et en plus, c'est extrêmement émouvant parce que c'est une histoire qui est née à Radio France, à l'étage du dessous.
Oui. Non, moi, je suis toujours un peu chez moi et très ému.
Mais
de venir
totalement, Je vous fais écouter Radio 7. Alors, 1981, ouverture des radios libres, François Mitterrand, et puis Michel Cotta, qui était notre présidente à l'époque, je dis notre, voilà, veut une radio de jeunes à Radio France, ça va s'appeler donc Radio 7, qui va être une des premières en France à diffuser du funk et à programmer de la musique black.
Tu sais, dans les maguettes, tout le monde connaît. Tu sais, dans les maguettes, tout le monde connaît. Les maguettes près de Lyon, tu le sais. Les maguettes, aux maguettes, tout le monde connaît. Radio 7, ils ont tous fait des maquettes avec des casquettes. Tout ça, c'est aux maguettes, c'est comme à la Courneuve. Tout le monde maintenant, à 909.
Bah, c'est ça l'histoire.
C'est fort. Bah, j'avais jamais
ça. C'était dans nos archives.
C'est moi. Ça.
Oui, c'est vous. C'est vous à Radio 7.
Émouvant.
Bah non, mais c'est génial. Et on en a plein comme ça dans les cartons à vous faire redécouvrir. Donc il faut raconter qui est Marie-France Brière, une petite femme qui mesure 1m58, qui est absolument ravissante. On dirait la poupée de son King France Gall à l'époque. King Kong. Elle est hyper autoritaire.
Oui.
Et elle vient vous dénicher dans une boîte où il n'y a pas de blanc. Elle va être la seule.
Ouais.
Et elle y va, elle joue des coudes et elle s'impose. Et elle vient vous chercher là.
Ouais. Bah, c'est quelqu'un à qui on ne dit pas non. Marie-France Brière, quand je lui dis non, je vais pas faire de la radio. Et quand j'ai appris que c'était à Radio France et qu'il y avait cette grande tour de collection de disques, je me suis dit, mais je peux rentrer là? Elle me dit, oui, tu pourras rentrer là. Et je lui dis tout de suite, bah oui, je vais faire de la radio.
Parce que c'est la discothèque, en fait. C'est la réserve de vinyle qui vous a donné envie de venir ici.
Exactement. Moi, je vivais que par le vinyle.
Ouais.
Je me droguais de vinyle et de musique. Moi, c'était ma vie, quoi. Quand elle m'a dit ça, je lui dis oui, je voulais pas faire de radio parce que j'avais l'habitude d'animer live avec un public devant moi.
Ouais.
Et la radio, je me suis dit, j'ai jamais fait ça, que je vais parler devant un micro à des gens que je vois pas. C'est pas possible, je suis un mec live.
Et elle vous confie le 22h minuit, donc sur Radio 7, qui deviendra Move bien longtemps après. Où donc vous allez programmer de la musique black sous toutes ses coutures, parce que vous avez diffusé énormément de sons différents. Mmh. Et puis, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que un jour, Afrika Bambaataa est à Paris. Vous allez raconter qui est Afrika Bambaataa. Parce qu'il faut que tout le monde puisse nous suivre et rentrer dans cette histoire. Afrika Bambaataa est à Paris et il entend un de ses disques jouer sur Radio France, sur Radio 7, les antennes publiques, les ondes publiques, et il dit mais qu'est-ce que c'est ça? Et il débarque. Et il débarque ici.
Ouais.
Alors, qui est Afrika Bambaataa?
Afrika Bambaataa s'est nommé lui-même roi Zulu, créé la Zulu Nation, qui plutôt un état d'esprit à être, plus que les gens pensaient que c'était une secte, non, pas du tout.
Ouais.
C'est un état d'esprit positif, remplacer le négatif par le positif. Il amenait toute cette culture hip-hop. C'est un DJ qui vient du Bronx, ancien chef de gang, qui a perdu un ami, qui s'est dit bon, on va faire des choses positives. C'est un des créateurs de la fondation de cette culture hip-hop, des fondements de la culture hip-hop.
Donc remplacer la violence par la musique, remplacer les armes par la danse.
Voilà, tout positiver avec d'autres personnes comme Cool DJ Herc, qui étaient des gens du quartier, faire des choses pour faire avancer que cette jeunesse avait des choses à dire et à faire. Afrika Bambaataa, c'était l'ambassadeur, c'est toujours l'ambassadeur de la culture hip-hop. Et quand il débarque à Radio France, là je suis surpris, il arrive avec Laurence Twitou, avec qui j'ai fait l'émission, il était effectivement chez elle, je l'ai pas cru, elle débarque avec lui, je vois ce type arriver, et sans le savoir, il m'explique, mais attends, tu places Tu es en train de jouer Planet Rock, un de mes disques, personne ne le passe. J'arrive en France, j'entends ma musique, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Et t'es dans une culture hip-hop.
Et il vous nomme Roi Zoulou. C'est-à-dire qu'il vous confie quand même une mission sacrée pour la Zoulou Nation, c'est-à-dire de défendre la culture hip-hop et de la diffuser. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est incroyable dans la série d'Arte, c'est que tout s'est joué dans les couloirs ici à Radio France. Oui. Et vous avez appris à danser dans les couloirs ici. Et je vous fais écouter le morceau mythique sur lequel Boogaloo Shrimp a dansé une espèce de danse du ballet. Et alors, il y a des anciens qui racontent que en bas, là, à Radio France, dans le hall d'entrée, sur le sol en marbre, ça breakait et ça smurfait.
À fond.
Il va falloir nous expliquer ce que c'est que le breakdance, est-ce qu'il va nous expliquer ce que c'est que le smurf. Il faut que vous nous racontiez qui était Mr. Freeze à l'époque et qui était ce fameux Boogaloo Shrimp.
Mr. Freeze, c'est un extraterrestre. Boogaloo Shrimp, Michael, comme Campbell, qui c'était aussi un extraterrestre. Ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont fait quelques films, mais sont venus effectivement vraiment des personnalités incontournables de la danse hip-hop, parce qu'ils ont amené quelque chose qu'on ne connaissait pas. Ils glissaient, on se disait comment ils font pour glisser comme ça. Mr. Freeze dansait aussi bien debout qu'en breakdance, et quand il se mettait à breaker, on se dit mais comment il fait pour tourner sur le dos.
C'est ça, le breakdance c'était au sol.
Au sol, le breakdance c'est au sol.
Et vous, la première fois que vous l'avez vu, vous lui dites c'est marrant ton truc où tu nettoies par terre avec ton dos quoi.
Ouais, c'est plutôt les autres qui disaient ça. Moi je me disais comment il fait pour tourner sur le dos. Marie-France Brière, elle disait mais attends, c'est trop bien là, comment tu fais, comment vous faites. Faut amener ça en télé. Marie-France Brière était par exemple une visionnaire, elle qui était à l'époque à la direction de cette radio, nous disait mais on l'appelle affolée, on lui dit attends, mais qu'est-ce qu'il y a, il y a une émeute ou quoi à Radio France, faut que vous veniez tout de suite madame la directrice, parce que il y a des jeunes là, ils font des trucs par terre là. Et on venait dans les couloirs de Radio France parce que justement c'était toujours bien ciré jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est toujours bien lisse, il fallait un sol lisse parce que les jeunes autrement ils braquaient sur des cartons.
Évidemment qu'il fallait un sol lisse
pour glisser. C'est
moi qui étais une petite parisienne quand j'étais petite, ces gens-là, je les voyais s'entraîner dans les couloirs de la grande station de Châtelet-Léal. Ouais. C'est là qu'on les voyait, qu'on les voyait breaker. Parce que justement, il y avait du carrelage.
Il y avait du carrelage bien lisse, du marbre. Ouais. Alors, tous les jeunes venaient à Radio France. Mais c'est super, on peut rentrer dans cette maison où on ne rentrait pas justement avant, ni les Noirs, ni les Arabes, ni la masse populaire. Ils disaient, bon, tout le monde donc venait jouer star. Tout le monde venait, sortait des quartiers. Moi-même, j'étais issu de Saint-Denis, pas loin de la Courneuve et tout ça. Donc, tous ces jeunes montaient dans ma voiture, on dit attends, on va avec toi là-bas, on t'écoute à la radio, c'est énorme.
Alors Marie-France Brière donc emmène l'émission de radio à la télévision, on est en 1984. TF1, il faut quand même se rappeler que TF1 est encore une télévision publique, hein. On est bien avant la privatisation. Elle est dirigée par Hervé Bourges. Et d'ailleurs, dans la série, Marie-France Brière dit ça a été un immense président de TF1 à l'époque, un immense directeur. Il y a que trois chaînes à l'époque. Hein, 84, c'est l'année de la création de Canal+, mais ça arrive qu'à la fin de l'année. Et puis, alors, vous êtes diffusé entre La Messe et Starsky et Hutch. Et ça, c'est très important aussi que ça soit juste à côté de Starsky et Hutch, parce que c'était un lien pour nous petits avec la culture américaine. Le décor, c'est un graffeur très connu qui s'appelle Futura 2000. Vous allez nous le raconter. Vous aviez pas un rond et pas l'un d'entre vous de l'équipe, ni le réalisateur, ni la directrice artistique. Personne n'avait jamais fait de télé.
Non, voilà, c'est très fort. Gabriel Coteau, le réalisateur, démarrait dans cette fonction. On lui propose, Marie-France Brière lui propose de réaliser ses missions. Il avait jamais réalisé de la danse, en plus, des multicaméras, c'est lui qui en parle, en plus, dans le reportage, c'est très bien. Et Laurence Huitoux n'avait jamais fait de télé. Sophie Bramley non plus, elles arrivaient de New York, mais elles avaient la connaissance plus que moi.
Sophie Bramley, qui deviendra une très grande photographe, femme de lettres, etc., qui à l'époque vivait entre Paris et New York, apportait des disques. Dans ses sacs de voyage.
Ouais. C'est génial. Il faut parler d'elle. J'ai dit, je vais m'entourer. Et j'ai Marie-France Brière qui me dessinait, faut que tu fasses une émission de télé avec ça. Je dis, je vais prendre les gens qui connaissent cette culture. Donc, j'ai appelé Laurence. Laurence qui était déjà, faisait ses débuts d'architecte. Elle me dit, je lui dis, tu vas venir avec moi à la télé parce que tu connais bien Bambata. C'est toi qui me l'emmenais. Alors maintenant, vas-y au boulot. Sophie Bramley, pareil. Et on était donc à trois avec le réalisateur, quatre qui, s'est dit, quel moyen on a? Laurence, tu disais, écoute, on va mettre des échafaudages. On va acheter un lino. Il nous faut au moins ça. on va accrocher des vélos pour la déco. Et puis, comme on connaît Futura 2000, il va venir faire des graphes en direct parce qu'on voulait traiter, on voulait traiter toute la culture, tous ces éléments de la culture hip-hop. Donc, le graphe, la danse, le DJing,
le rap. Les fringues, les lunettes.
Le look. Ah ouais,
vos chapeaux, Sydney. Yeah. Voilà, je l'ai dit, tous les géants américains vont venir. Madonna, qui est toute petite, qui est là, qui danse au milieu de vous. D'ailleurs, il y en a qui disent à l'époque, on regardait Madonna, on disait, c'est de la merde. Débarrassez-nous de cette variette. Herbie Hancock. Ouais. Herbie Hancock, c'est pas rien. Herbie Hancock, c'est un immense musicien, un géant du jazz et ensuite du funk. C'est aussi celui que vous écoutiez avec votre papa quand vous étiez tout petit. Il va composer Rock It, qui va devenir l'hymne de la génération Smurf. On l'écoute et vous nous racontez ce que c'est que ce morceau. Qu'est-ce qui se passe là, Sydney ? Parce que là, on mélange des sons qu'on n'avait jamais mélangés.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que Herbie Hancock était fou déjà des synthétiseurs. On aimait, on dansait déjà sur des trucs d'Herbie Hancock comme Camaleon. Mais là,
grand saxophoniste, Herbie Hancock.
Grand pianiste.
Ouais, grand pianiste, saxophoniste, il a joué là.
Et ce qui se passe, c'est que il va chercher DST, ce DJ noir new-yorkais, pour dire, mais attends, ce que tu fais avec la platine, fais un instrument de musique avec. Bon, parce que tous les sons qu'il aimait, c'était ce qu'on appelle le scratch. Donc, DST, c'est habilité à faire de sa platine, un instrument de musique. Et Herbie,
le scratch,
qui est très avant-garde.
C'est quand on pose tous ses doigts sur le vinyle, j'essaye de raconter. Voilà. Et puis qu'on fait avancer et reculer le disque. Et ça fait
voilà, comme ça crée un effet, qui a été un peu créé par Grandmaster Flash et d'autres DJ. Et il faut savoir que ce son-là a été vraiment orchestré, instrumentalisé par DST dans Rock It. Et c'est ce qui a plu. Et Herbie, lui, s'est dit, mais attends, il y a quelque chose, il y a toujours des sons d'avant-garde que j'ai besoin parce que Herbie faisait déjà des sons d'avant-garde avec les synthétiseurs et tout ça. C'était donc important pour lui. Il a créé cet hymne-là, un bon tempo. Les danseurs se sont mis dessus. On s'est dit, mais ça y est, c'est parti. C'est devenu l'hymne national de la culture hip-hop. Il y a Planet Rock, c'est vrai. Mais Rock It, ça a remis au goût du jour toute l'histoire. Et il n'y a pas un danseur qui n'évolue pas sur Rock It. C'est le titre qui est incontournable.
Et puis alors, il y a quelque chose, quand on revoit aujourd'hui l'émission, il y a quelque chose de très surprenant, c'est qu'il y a des gosses partout, Sydney. Il y a des enfants partout sur ce plateau.
Ça va, Nasser ?
Oui.
Ça va, Pascal ?
Oui.
Vous n'avez pas le trac, hein ?
Non.
T'as pas le trac, hein ?
Non.
Faut que je répète deux fois la même question, je le pose une fois pour deux, hein, ok ? Alors toi, tu as gagné un grand concours à Montpellier, au Papagayo ?
Oui.
Ah bon ? Et tu viens donc de Montpellier ?
Oui.
Alors comment se fait-il que t'as gagné ? Tu dois être très fort alors, hein ? Ah ! Ah, bon, c'est bien. Eh ben, musique maestro, please. Eh, Mr. DJ, Dr. Fred ! Attention, la police préférée !
Et quand on revoit ça, 35 ans après, Sydney, là pour le coup, c'est presque un choc. Parce que finalement, cette image familiale et les gamins, ils ont complètement disparu de l'imagerie du rap ensuite, telle que ma génération l'a connue ensuite avec MTV, les grosses bagnoles, les fesses à l'air et les belles pépées au bord de la piscine. Donc, comment on est passé de l'un à l'autre ?
Ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais pas que j'allais animer une émission d'enfants, parce que c'était pas pour nous, c'est pas une émission d'enfants. On animait une culture naissante, celle du hip-hop. Mais c'est les plus jeunes qui sont venus. Voilà, ils sont venus de suite, quoi, parce que peut-être qu'il y avait rien dans les quartiers, donc c'est dire on vient.
Donc c'est des hordes de gamins qui ont débarqué dans les studios.
Voilà, entre 10 et 15 ans, 16 ans, au lieu de traîner en bas de l'immeuble, on disait bon, et vous venez, ouais, on vient, on va aller. C'est eux les premiers qui se sont dit on parlait pas de culture ni rien du tout, qui avait envie de danser, de sortir de son quartier, de se faire connaître. Le petit Mamadou, le petit Mohamed, en bas de l'immeuble, on l'a vu le lendemain à la télé, et c'était une star.
Mais là, ils sont à mourir de rire sur le stade.
Bah oui.
sur le plateau, ils sont tous avec leur caouet.
Oui.
Pourquoi ? Et ils prennent ça hyper au sérieux.
Bah oui, parce que les plus âgés, soit ils écoutaient du rock, ou ils écoutaient autre chose, ils regardaient ça avec un petit peu, une vision un peu de moi. Mais les jeunes, c'est toujours eux. Jusqu'à aujourd'hui, hier, j'étais au Battle Europa à Berre-l'Étang, près de Marseille, d'ailleurs, big dédicace à tout le monde là-bas.
Ouais.
Mais il y avait ce qu'on appelle, nous, au début, les baby battles. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, les petits jeunes, c'est eux qui dansent déjà aujourd'hui, quoi, voilà. Donc il y a des championnats du monde avec les petits, faut le savoir.
Et voilà, tout ça, ça a commencé sur TF1 en 84. L'émission n'a duré qu'une saison. Elle est restée totalement mythique. Et vous en revoyez son histoire, la vraie histoire de HIPHOP sur Arte Télé. Merci beaucoup.
C'est qui est
frère Sidney, on est hyper fiers de vous
c'est
avoir ici.
C'est le vrai Sidney que
c'est
je peux toucher Sidney en premier.
C'est le vrai Sidney à l'IRBI.
Eh bien, ça me fait bizarre.
Non, mais il en a
voir,
les larmes aux yeux.
Non, c'est bizarre, c'est bizarre.